Madame Prouchous, Madame Labarbe, excusez-moi, avec mes lunettes, je n'ai pas pu distinguer. Vous devez dire votre nom. Et ensuite, le professeur Herrera, par la suite, pas de panique, il y a encore du temps pour un quatrième tour. Bon. Madame Vrignon.
Non, je suis désolée, mais monsieur avait demandé la parole en même temps, ici à côté, donc on lui laisse la parole une minute.
Ah, ben, bien sûr.
Merci beaucoup. Mon nom d'honneur, c'est monsieur Labarbe. Mais effectivement, mon annonce est dépassée, je travaille à l'état-major Mignon-Villers. Je pense que quand on parle de langue, il faut aussi parler du temps que l'on peut mettre, dont on dispose pour être entraîné dans la langue de l'autre, pour apprendre la langue de l'autre. Évidemment, en termes de travail au sein de la commission et du conseil, quand on prévoit une carrière relativement longue dans cette institution, on peut se permettre effectivement d'avoir un apprentissage relativement cohérent de cette langue. Je suis désolé, je fais partie des intermittents du spectacle, si vous me donnez cette comparaison. Comme tous les experts nationaux détachés, je ne suis ici que pour 3 ans. Je suis dans un état-major, comme beaucoup d'états-majors militaires, la langue de travail, c'est la langue anglaise. C'est un constat, je ne le conteste pas, c'est comme ça, c'est un fait. A plus B, X, c'est l'anglais, et voilà, c'est très bien comme ça. Je peux vous dire que le combat de la protection de la défense de la langue française au sein de l'état-major de l'Union européenne, il est totalement perdu. Théoriquement, il y a des épreuves et d'anglais et de français pour tout officier qui rentre à l'état-major. Beaucoup parlent français, très bien. Assiste à l'arrivée d'une nouvelle génération qui ne parle pas un mot de français. Ça, c'est un constat. Il ne s'agit pas une fois de plus, je crois, d'opposer une langue à l'autre. On ne construira rien en s'opposant les uns aux autres. Là où je voulais être franchement iconoclaste, pour avoir été moi aussi directeur d'établissement et m'être occupé de langue pendant très nombreuses années avec l'Italie à Saint-Cyr, est-ce que vous disiez le thème de votre conférence, c'est bien défendre le français, c'est pour ne pas parler la langue de l'autre. Je vous pose la question jusqu'au bout du problème et de toute manière très pardon. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on apprenne sérieusement et une bonne fois pour toutes que les efforts ne soient pas faits sur la défense de la langue française, mais sur la promotion de la langue anglaise en France, je dis bien ce que je dis, la promotion de la langue anglaise en France, de façon à ce que nous parlions tous à la fin la même langue, le même pidgin, la même langue véhiculaire, et qu'à partir de cette base commune que nous aurons tous, nous puissions chacun promouvoir correctement notre culture.
Merci à vous. Alors, on peut. Certains de nos amis doivent quitter, mais nous allons encore le temps de donner la parole à Madame Vrignon, à Madame Prouchous, et puis encore deux demandes de parole, une dame dans le fond, et le professeur Herrera. Assez bref, s'il vous plaît, parce que certains de nos amis doivent nous quitter pour des raisons professionnelles, j'imagine, impérieuses. Madame Vrignon.
Tout en étant très intéressant, très sympathique et souvent
speak so long today or something.
Merci,
je voudrais juste donner à propos de ce que vous dites plusieurs exemples. De plus en plus, par exemple, la commission fait appel régulièrement aux journalistes pour faire des conférences au sein de la commission. Pas payé, hein, vous me dites tout de suite, parce que je ne peux pas me faire payer par l'institution que je cours. Je veux pouvoir, comme on dit dans ce métier, leur chier dans les bottes sans leur rien leur devoir. Donc, pendant tout un temps, je pouvais m'exprimer en français. Désormais, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on me fait venir et on me dit qu'il n'y a pas d'interprète, il faut parler directement en anglais. Donc, c'est plusieurs fois que je refuse en disant, bah, écoutez, ils se passeront de ma très grande sagesse. Tant pis pour eux, je ne viens pas. Mais ça, c'est pas grave. C'est la commission, j'ai l'habitude. Je veux dire que, bon, cette institution est ce qu'elle est et c'est ainsi, et on ne va pas pleurer. Effectivement, l'état-major, ici, parle anglais, la commission se la parle anglais. C'est dommage, c'est ainsi. C'est plus grave ce que vous dites à propos de la France. Et ça, je le constate. Exemple. Il y a un MBA, parce que maintenant ça s'appelle des MBA, mais en même temps ça n'existait pas, mais en France, après, on a des MBA, hein, Master of Business Affairs, je crois, c'est ça, administration, ouais, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Et alors, donc ce sont des étudiants français, enfin des gens qui ont tous donc tous, ils sont cadres en France, et à l'école de commerce, supérieure de commerce de l'île de Paris. ESCP, c'est ça? ESCP, je ne sais pas comment on. Et alors, donc, pendant deux années, là, je venais faire une présentation de l'Union européenne, de l'actualité européenne, devant ces cadres français. Donc, je ne sais pas, chef du service juridique, chef, directeur financier, ainsi de suite. Et puis, il y a trois ans, on me dit, ça ne vous embêterait pas de faire cette conférence en anglais? Moi, je dis, pardon? Et je suis français, je m'adresse à des Français en anglais? Vous plaisantez ou quoi? Et ah ben alors on ne peut plus faire appel à vous parce qu'il faut vraiment maintenant, toutes nos conférences à Bruxelles sont uniquement en anglais. Et une partie des cours sont en anglais. Valérie Pécresse, la nouvelle ministre donc de l'enseignement supérieur, elle est venue ici à Bruxelles, et devant nous, on était là, hein, elle a expliqué qu'elle est considérée que la moitié des cours à l'université en France, à terme, devraient être donnés directement en anglais, et les Français travailler directement en anglais, pour que ça devienne la deuxième langue nationale française. Voilà, voilà. Donc, c'est pour ça que vous me dites on donne effectivement les moyens aux institutions, etc. D'abord, c'est vraiment, moi, chaque fois que je vais dans des alliances françaises, etc., dans des lycées qui sont encore payants, je constate pas cela, et je constate, tout à l'heure, quelqu'un citait Kouchner, effectivement, et qui d'ailleurs, on ne parle pas d'un si bon anglais que ça, loin de là.
Je ne comprends pas.
Oui, voilà, c'est ça. En tous les cas, je constate cette espèce cette d'abandon général. Donc c'est pour ça, même défense de la langue française, j'ai l'impression presque d'être dans une secte, parce qu'en réalité, c'est perdu, et c'est perdu. C'est un peu comme en juin 40, ce qui se passe ici à Bruxelles et dans l'Europe. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle Marc Bloch qui avait écrit L'étrange défaite, et qui avait expliqué la défaite française par une question simplement d'état d'esprit mental. Ben, c'est la même chose. À mon avis, nous avons perdu parce que c'est ainsi. Et c'est comme ça, il faut arrêter de pleurer. Et moi, je ne pleurnicherai pas. Mais honnêtement, je ne suis pas fluent en anglais. Non, 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 c'est pas moi qui résiste. Moi, je résiste parce que je continue, moi, je m'en fiche. Je serai à la retraite dans 15 ans. Et puis bon, voilà, c'est tout. Moi, je forme mes enfants au monde de demain. J'ai essayé de persuader ma fille de parler chinois. J'ai perdu le combat. Bon, déjà, j'ai gagné le combat de l'allemand, je ne vais pas me plaindre. Mais bon, le chinois, vous savez, les Chinois sont suffisamment malins, c'est-à-dire pour comprendre la langue de l'autre et imposer simplement leurs normes à eux au reste du monde. Donc je fais confiance aux Chinois, effectivement, pour parler un mauvais anglais, pour vous obliger, vous, à apprendre, effectivement, à adopter leurs normes. Donc voilà, c'est pas que je suis défaitiste, je constate, je refuse le mot défaitiste, c'est que je constate tout simplement que ce combat, pour l'instant, ce combat, donc pas ce combat, la place de la langue française se réduit comme peau de chagrin, mais parce que nous le voulons. C'est ainsi. Et c'est regrette. Et vous m'excuserez, je m'amuse beaucoup, mais là je dois filer maintenant. J'avais prévenu, voilà, donc je dois filer. Il faut que je m'occupe de la nomination du président du Conseil européen. Là on m'appelle à Paris. Au revoir.
Quant à lui.
Alors, je vais acheter quelques minutes de plus parce que je ne vais m'occuper que de la nomination du ministre européen. d'autant plus que j'ai moins de candidats. Et Jean Quatremer, je pense qu'il fait partie d'une secte, celle de Dernier Baron d'Honneur. Eh bien, s'il fait partie d'une secte, je souhaite être vous dans la même secte. Je suis malheureusement, je ne dis pas ça pour vous ce soir, mais je suis assez fréquemment pressenti pour venir parler de choses et d'autres, un peu partout. Et en tant que cadre de direction d'un établissement public de l'État français, j'ai une règle, c'est la ligne du parti si vous voulez, c'est qu'à la tribune, je ne parle que de français. Alors, que les gens comprennent ou ne comprennent pas, c'est leur problème. S'ils pensent ne pas comprendre, ils peuvent effectivement financer des interprètes, ça ne me dérange pas. Par la suite, à table ou un verre à la main, il est possible que je déploie quelques talents linguistiques dans une autre langue. Mais en tout cas, officiellement à la tribune, je ne bougerai jamais de cette position, je m'exprimerai en français comme ici ce soir. Je reviens sur les questions qui ont été posées. Monsieur Gréco, oui, en effet, Monsieur Kinnock n'a pas laissé que de bons souvenirs, mais je rappelle qu'il était assisté dans sa funeste mission par un Français dont je tairai ici le nom. Vous le connaissez tous. Alors, Monsieur Cavana,
le Français.
Monsieur Cavana, Monsieur Dancourt Cavana, désormais, c'est ça? Avec un trait d'union, sans trait d'union? Avec un trait d'union, parfait. Bien, alors, il y a une chose qu'il ne vous a pas dite, c'est la nationalité de sa secrétaire. La secrétaire qui refuse de répondre autrement qu'en anglais. Mais elle est anglophone.
Non, elle a une nationalité.
D'accord. D'autre part, Monsieur Cavana, je n'ai jamais dit que Molière était le contemporain de Shakespeare. Je n'ai d'ailleurs jamais prononcé le nom de Molière. Et comme de toute évidence, votre nom de famille, du moins la seconde partie, est d'origine irlandaise, il me semble que j'ai également cité Zinge. Donc, je ne pense pas être fautif là-dessus. Le colonel Bercier. Oui, la spécificité militaire, nous la connaissons. On l'a vu à l'OTAN, à l'œuvre depuis très longtemps, alors que l'OTAN a deux langues officielles, le français et l'anglais. Et c'est la situation des états-majors militaires, pas seulement à l'OTAN, me conduit à penser qu'il vaut mieux qu'il y ait autre chose qu'une dichotomie franco, enfin français-anglais. Je pense en effet que nous avons tout à fait intérêt à avoir le plus grand nombre de langues en présence. Et je dirais même que tactiquement, je demande à nos Allemands de fermer les oreilles, là, mais tactiquement, je pense que nous avons intérêt à soutenir la langue allemande, qui, comme on l'a. Oui, absolument. Oui, oui. Nous avons intérêt à soutenir la langue allemande parce que ceux qui lâcheront l'anglais pour parler l'allemand sont des gens qui, de toute façon, n'auraient pas parlé le français. Donc je crois que techniquement, c'est une bonne affaire. Madame Vrignon sur le multilinguisme, oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle dit, compréhension mutuelle, etc. Et sur la question de Madame Bouchouz qui nous demande de prendre parti sur le travail effectué directement en langue anglaise dans des universités qui seraient dans un pays dont l'anglais n'est pas la langue véhiculaire principale, je dis oui sur le fond, mais j'ajoute deux choses. La première, il y a des matières qui ne peuvent pas, sous peine de ridicule, s'enseigner en anglais. Vous n'imaginez pas que dans une université italienne, on enseigne la littérature italienne à travers le moyen de la langue anglaise. Donc il y a quand même un certain nombre de sujets qui échappent à cela. D'autre part, je crois qu'il faut bien faire la distinction entre les universités en formation première et certains cycles internationaux où le but du jeu est d'attirer le plus grand nombre possible d'étudiants étrangers. Et là, effectivement, la VUB à Bruxelles a d'ailleurs bâti une partie de sa réputation internationale sur le fait d'avoir un certain nombre de troisième cycle en langue anglaise. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de toutes les questions.
Merci. Michel ? très bien.
Un commentaire. Si défendre la langue française, défendre effectivement, ça peut sembler un peu daté. Quoique je pense qu'il y a un combat peut-être un peu différent de ce qu'il était il y a 40 ans, qui reste à mener. Les voies à suivre sont peut-être à imaginer. Je crois de toute manière que l'un des apports tout à fait utiles de VLF Bruxelles, c'est d'y avoir ajouté le combat pour le plurilinguisme. Ça me paraît être là une stratégie englobante qui permettrait de fédérer des gens voulant s'opposer ou du moins éviter que le français ne soit vraiment le seul idiome reconnu sur la place européenne. D'autre part, quartier général, l'anglais, oui, mais c'est peut-être tout simplement pour une question d'efficacité, puisque là, effectivement, c'est peut-être grâce à ou à cause de l'OTAN, dans notre monde occidental, quasiment tout passe par là. Je dirais que là, il y a quand même une différence à faire par rapport aux carrières au long cours. Vous parliez de gens, de personnel temporaire de 3 ans. Si vous avez une carrière administrative au long cours, que vous êtes amené, par exemple, à rédiger des propositions, des projets de directives et tout ça, et que vous êtes obligé de l'écrire dans une langue qui n'est pas la vôtre, que ce soit le français ou l'anglais, peu importe, une des langues de travail, mais vous risquez d'avoir une déperdition en termes de qualité. Et donc, quelque part, c'est aussi pénaliser tout le processus et, in fine, les Européens. La dame qui a parlé au nom du service juridique, en disant qu'elle s'y battait, continuez, mais vous avez en plus la chance de vous retrouver dans un service, donc une DG, qui reste éminemment francophone, notamment grâce à la Cour de justice européenne. Je crois aussi que certains de nos collègues dans d'autres DG se retrouvent vraiment dans des mondes clos anglophones, avec impossibilité de s'exprimer autrement. Et là, pour rebondir à d'autres interventions tout à l'heure, moi je crois qu'il y aurait peut-être du côté des fonctionnaires des institutions européennes qui vivent mal la situation actuelle, à méditer sur la manière de se fédérer là aussi pour mener le combat en interne, pour essayer de rééquilibrer les choses. Je terminerai, parce que j'avais oublié de réagir à un propos de Mme de Schutter, qui a défendu, et c'est tout à fait légitime, des organismes comme l'Organisation internationale de la francophonie. On peut y ajouter les alliances françaises. Je crois que personne n'a émis le doute sur l'efficacité du travail qui est accompli là sur le terrain. Ce que nous avons éventuellement incriminé, c'est un certain lâchage d'élites françaises ou francophones. Mais par contre, par rapport à ce point-là, tout n'est pas parfait non plus à votre niveau. Je vais vous donner un seul exemple. Moi, je trouve qu'un vecteur d'expansion du français, de la langue française, reste malgré tout les lycées français que vous avez la chance d'avoir encore un peu partout dans le monde. Je vous dirais qu'il y a un problème dramatique pour les non-français. J'ai un cas précis d'un ami qui a voulu inscrire sa fille à Istanbul. Il est belge. Ça lui aurait coûté... C'est impossible. Donc, on lui a fermé la porte de la francophonie d'une certaine manière. Et ce qui est bien, les lycées français, c'est une bonne chose. Ce sera vraiment mon dernier point. Est-ce que nous n'aurions pas aussi intérêt à réfléchir à la création d'écoles européennes en plus grand nombre, dans tous les lieux où il y a des institutions européennes, mais dans tous les États membres?
Parce qu'il est 10h05, nous avions convenu de terminer bientôt. Est-ce que je peux me permettre de faire droit à la dernière demande de parole qui serait celle du professeur Herrera, qui organise d'ailleurs, il va nous en dire un mot certainement, à Paris en décembre, un grand séminaire sur le multilinguisme.
Ah, c'est fini.
Que la lumière soit.
Bon, mais on peut continuer sans...
Alors ça, c'est un règlement administratif qui n'a pas été mis au courant d'une demande de dérogation.
Ce n'est pas un complot.
Et ce n'est pas un complot.
Mais tant qu'on s'en trouve, est-ce que la sono fonctionne?
Oui, la sono fonctionne.
Alors, allez, on continue en
ligne. Je vais essayer de donner plus loin.
Oui, j'organise justement un colloque.
colloque international sur l'Europe de 27 et ses langues. Je suis professeur à l'université de Paris 7 et je voulais introduire une petite note d'optimisme sur les questions des langues. Parce que quand on regarde un peu l'histoire, on voit que les langues du passé, ce ne sont pas les langues du présent. Et on pourrait peut-être rajouter que les langues du futur ne seront pas forcément les langues du présent. Et que le futur, on les construit à partir du présent. Quand on réfléchit sur l'endroit où on apprend les langues, il y a notamment dans les centres de la famille, on apprend la langue, et sinon on l'apprend à l'école. Et l'école, c'est un endroit où effectivement l'action politique peut être menée. Si on est pour la diversité, on ne peut pas faire un enseignement des langues étrangères qui soit monolithique. Il faut que la diversité soit introduite à tous les niveaux. Et l'Europe, de ce point de vue-là, bon, c'est vrai qu'ils ont fait une action pour la promotion de l'enseignement des langues étrangères, mais finalement, les résultats, les suivants, il y a toujours les mêmes quatre langues qui sont enseignées, et il y en a une qui est à pratiquement à 100%, c'est l'anglais. Si on veut justement que dans cette Europe, il n'y ait pas un monolithisme linguistique, y compris dans les institutions, parce que justement, perdre les langues à ce niveau-là, c'est perdre des cultures et des façons de voir le monde et de l'interpréter. Il est absolument nécessaire que la diversité soit introduite au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, et bien entendu, maintenant, il y a une nouvelle attaque, et c'est les universités. Les universités, maintenant, de deux points de vue. Bon, il y a beaucoup de cours, ou un certain nombre de cours, qui sont encouragés à être faits en anglais, et pas toujours dans des cours de formation continue, mais aussi des cours de formation initiale. Et d'un autre côté, il y a aussi l'évaluation des enseignants-chercheurs. L'année dernière, justement, il y a eu en France une grève assez importante. Et justement, l'évaluation des enseignants-chercheurs qui s'est faite uniquement par des publications qui s'est faite dans des revues américaines, ça ne peut aller qu'à l'encontre du multilinguisme. Merci.
Je voudrais terminer en rendant quand même hommage à cette armée de traducteurs et interprètes qui font partie de ces services les plus performants du monde.
Je voudrais aussi remercier surtout nos autres.